fiction et de philosophie. Je tiens tout de suite à préciser une chose, je ne suis pas philosophe, mais comme vous l'avez entendu, pharmacien, et ce qui importe surtout ce soir, illustrateur, critique, écrivain de science-fiction. Dans le domaine, j'ai sorti quelques livres et nouvelles, etc. Vous en avez déjà vu quelques-unes. Là, vous avez un petit échantillonnage de ce qui est possible de faire en science-fiction, des essais, des nouvelles, et un recueil d'illustrations, etc. Le but, c'est pas tellement de parler de ces ouvrages-là qui ont déjà quelques années, mais de vous parler de parler science-fiction avec l'exemple du livre que je viens de publier, Metakin, que vous avez ici. Aussi à l'écran, si j'arrive à savoir comment ça se passe, voilà. Même si mon dernier livre parle pharmacologie et médicaments, il n'en reste pas moins un ouvrage de science-fiction. Ce n'est donc pas en qualité de pharmacien que je m'exprime devant vous ce soir, mais en auteur de science-fiction. Science-fiction et philosophie, les deux termes peuvent paraître incompatibles. Mal placé pour en juger, je sais toutefois que quelques penseurs ont tenté le rapprochement. Aux ouvrages que Florence vous a présentés, j'ajouterai celui-ci qui personnellement m'a beaucoup plu. C'est l'ouvrage de Guy Lardreau, Fiction philosophique et science-fiction, que si vous êtes amateur de science-fiction et certainement en tant que philosophe aussi, vous pourrez apprécier. Pour ma part, je ne m'engagerai pas dans des pas d'érudits si brillants. Je me contenterai de proposer quelques pistes de réflexion sur la science-fiction en espérant que ma tentative, à défaut de gravité dans les hautes sphères des philosophes, croise en quelques points leur orbite. Alors, de quoi parle-t-on ? La philosophie, je pense que vous êtes tous au parfum. En matière de science-fiction, je peux peut-être me permettre quelques précisions. La recherche d'une définition de la science-fiction, elle a épuisé des générations de gens, de spécialistes qui ont débattu de la question. Quant à moi, je me contenterai d'une définition que j'ai toujours retrouvée comme excellente et qui je ne cherche pas à dépasser particulièrement, qui est celle de Pierre Versin. Pierre Versin, vous le savez, c'est le fondateur de la Maison d'ailleurs. C'est aussi l'auteur d'une monumentale encyclopédie de l'utopie et de la science-fiction parue à l'âge d'homme dans les années 70. Alors, Versin avait sa définition de la science-fiction en trois mots. Il appelait ça « conjecture romanesque rationnelle ». Conjecture parce que la science-fiction pose une hypothèse. Elle fait œuvre d'imagination, elle dépasse le cadre de la réalité connue. Son mode d'expression, c'est le romanesque, car elle s'inscrit dans une fiction narrative. Un récit qui peut être explicite, par exemple en matière de roman, en littérature, de bande dessinée, de cinéma, mais qui peut être aussi implicite. C'est-à-dire que les sujets qu'elle représente, que la science-fiction représente, pourraient s'inscrire dans un récit, dans une histoire. Donc ça, c'est le pôle romanesque. Reste le dernier terme de la définition de Versin, rationnel. La science-fiction, en effet, reste toujours rationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne remet pas en cause les données de la science, comme le font, par exemple, à l'inverse de la science-fiction, le surnaturel ou le fantastique. Elle garde toujours quelques liens de filiation avec notre monde actuel. La science-fiction d'anticipation, par exemple, prolonge notre actualité et ne rompt jamais avec l'histoire, à la différence, par exemple, du merveilleux des contes de fées ou de la fantasy. Avant de me risquer à aborder la science-fiction sous l'angle philosophique, je me permets une petite digression de caractère plutôt psychologique. Lorsque vous parlez science-fiction avec quelqu'un que vous ne connaissez pas particulièrement, ou que vous le surprenez en l'invitant par exemple à voir un film ou à lire un livre de science-fiction, vous pouvez vous attendre à deux types de réactions. C'est vraiment un peu caricatural, mais ça joue dans la plupart des cas. La première réaction, ce sera la personne qui vous dira « ça, ce que tu m'as montré là, ça reste de la science-fiction ». Dans ce cas, l'interlocuteur nie ce fameux lien qui rattache son présent au thème abordé. Par exemple, si vous lui montrez le film Bienvenue à Gattaca, que vous connaissez peut-être, quelques images qui rappellent le film, eh bien, la personne va dire « Non, mais ça, c'est pas possible, ça reste de la science-fiction, ça me concerne pas, etc. » En d'autres termes, l'idée que dans un futur proche, les progrès de la génétique, puisque c'est le thème du film, permettront aux parents de profiler leurs enfants, leur progéniture, en manipulant leur ADN comme ils l'entendent, eh bien, cette idée-là, elle est tenue à distance. Elle est rejetée comme irréaliste. En d'autres termes, la suspension d'incrédulité qui est nécessaire à l'adhésion aux propos du film, elle est compromise. Ça ne va pas marcher, la science-fiction, chez ces gens-là. Parce que le sujet s'exclut, en quelque sorte, de la proposition. Et puis, vous avez le deuxième type de réaction, qui est de dire « Ah oui, intéressant, bientôt, ça ne sera plus de la science-fiction. » Alors, autrement dit, l'interlocuteur convient qu'il pourrait exister une continuité entre sa réalité présente et le thème du film, ou du livre, ou de la proposition que vous lui faites. En d'autres termes, il pourrait dire, si on pousse encore un peu le bouchon, on en arrivera là. Cela n'a rien à voir avec le pessimisme ou l'optimisme. On pourrait imaginer que la personne voit un film de science-fiction qui décrive des gadgets absolument extraordinaires. C'est la même chose. Il peut s'inclure dans une proposition positive ou il peut s'inscrire dans une proposition négative, par exemple, de dire, ah oui, si on continue à ce rythme, on va épuiser les ressources de la planète, etc., etc. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir peur de l'anticipation ou de l'espérer. C'est juste une question d'attitude par rapport à la personne aujourd'hui et l'œuvre qui est proposée. Le sujet, en d'autres termes, s'inclut dans la proposition. Donc, cette double attitude montre toute l'ambiguïté de la réception de la science-fiction par le public. Et toute la difficulté pour la science-fiction de s'imposer comme culture, comme esthétique, comme mode de pensée, comme moyen d'interroger le monde, etc. Finalement, plutôt que de poser les termes, la question en termes psychologiques, j'aime bien proposer une manière d'aborder le sujet qui serait un point de vue que je pourrais appeler moral ou moraliste. Le dilemme ne se réduirait-il pas, finalement, en matière de science-fiction, à une question d'honnêteté intellectuelle ? On accuse, c'est souvent le fait, par exemple, des personnes dont je parlais tout à l'heure, qui s'excluent de la proposition de la science-fiction, ils accusent, en d'autres termes, la science-fiction de manquer de réalisme. Pour eux, les valeurs principales, c'est le présent, le vécu, l'histoire, les œuvres classiques impérissables. Telles sont les vraies valeurs à respecter. Elles sont seules à dignes d'émouvoir les beaux esprits. D'un côté, vous avez l'arbitraire des songes creux, et de l'autre côté, une culture sûre, vénérée par les siècles, intarissable. Posée ainsi, vous reconnaîtrez que la question est vite tranchée. Mais qui, en définitive, se berce les plus grandes illusions ? Est-ce que c'est ceux qui croient en un monde immuable ou ceux qui annoncent ces transformations à venir ? Ceux qui voient en l'humanité une espèce invariable dont l'histoire se répète ou ceux qui anticipent son évolution galopante ? Au nom de quelle éthique ou de quelle esthétique empêcherait-on la science-fiction de clamer qu'aujourd'hui, c'est déjà demain ? Je vous laisse sur cette question. Je laisse ces questions d'ordre général pour en venir un peu sur du concret. À savoir, je compte comme un type, puisque je suis invité à titre d'auteur de science-fiction, je vais vous proposer de réfléchir un petit peu au thème que j'ai choisi d'aborder dans ce livre. Alors, le livre, il doit son titre à un médicament. Il s'agit d'un médicament imaginaire que j'ai baptisé Métakine. C'est, dans mon histoire, un psychotrope, commercialisé par la multinationale Globantis Pharma, dont vous voyez le sigle sur l'emballage. Ce produit a été officiellement enregistré pour traiter une pathologie particulière, à savoir le trouble de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant d'âge scolaire. Alors vous me voyez tout de suite venir, ma substance, elle présente une parenté évidente avec le méthylphénidate, une molécule connue en Suisse et aussi dans beaucoup de pays sous l'appellation Ritaline. Il s'agit d'un médicament, donc je parle là de la Ritaline, il s'agit d'un médicament qui est réellement fabriqué par l'industrie pharmaceutique et réellement prescrit à peu de choses près dans les mêmes indications pédiatriques que la Métakine. Ajoutons que le méthylphénidate, distribué et administré à l'échelon mondial, est au cœur d'une controverse médico-sociale abondamment relayée par les médias. Alors, nous sommes en science-fiction. Métakine n'est pas la ritaline, et mon roman n'est pas le procès déguisé du méthylphénidate. Mon produit, je tiens à le souligner, est une fiction qui présente de nombreuses différences par rapport à celui dont il s'inspire. Par exemple, Métakine, de façon générale, va beaucoup plus loin que son modèle d'origine. D'abord, dans le futur proche de mon roman, il tient réellement toutes ses promesses. Là, vous avez une publicité de la firme Globantis Pharma. Hein, l'école perdure, les méthodes changent. Alors, dans le futur proche de mon roman, la Métakine tient réellement toutes ses promesses. Les écoliers qui en prennent deviennent réellement plus calmes, plus attentifs, plus performants. Mieux, ils collectionnent les bonnes notes et les compliments de leurs professeurs, auxquels ils obéissent désormais au doigt et à l'œil. Et en plus, sans aucun effet indésirable. Merveilleux, non ? Conquis par ces résultats, les enseignants se mettent eux aussi à la Métakine pour mieux tenir leur classe. Les parents, devant les prouesses extraordinaires de leurs enfants, en prennent pour combattre le stress au travail, abattre deux fois plus de tâches et grimper 4 à 4 les échelons de leur entreprise. Finalement, tout le monde se convertit à la Métakine, la société entière. Débordé par la demande, Globantis Pharma voit son blockbuster lui échapper. Le médicament se met à circuler sous le manteau. Les fabricants clandestins en livrent des copies sauvages par Internet. À chaque coin de rue, des dealers approvisionnent les passants de tout âge et de toutes conditions sociales. Alors, en racontant une telle histoire, qui est la base du roman, disons son fil conducteur, à savoir les succès médico-économiques de la Métakine, je pratique un type de science-fiction que je qualifierais d'abord de linéaire. Je m'explique. Je pars des tendances du moment et je les extrapole. Je prends un médicament qui existe réellement et puis je gonfle en quelque sorte ses propriétés et ses promesses et puis je regarde ce qui se passe. Je fais une expérience de pensée à partir de l'hypothèse que toutes les promesses de l'industrie pharmaceutique sont tenues. Un autre type d'amplification linéaire que j'utilise dans mon roman concerne un autre domaine, celui des interfaces cerveau-machine. Vous avez peut-être entendu ou lu ou vu à la télévision que depuis quelque temps, on développe des dispositifs qui permettent à un ordinateur de recevoir des ordres en les captant directement à leur source neuronale, c'est-à-dire dans le cerveau de l'usager lui-même. Des électrodes, ou bien un scanner ou un autre dispositif savant, lient directement l'activité cérébrale au moment où le cortex formule un mot ou une intention de mouvement. Simultanément, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une parole ni d'enfoncer le moindre bouton, l'instruction est transmise à la machine. De là à imaginer que de telles interfaces soient commercialisées à grande échelle et qu'ils rendent caduques souris, claviers et autres joysticks, il n'y a qu'un pas que j'ai allègrement franchi dans mon roman. Comme d'ailleurs de nombreux autres auteurs de science-fiction l'ont fait déjà depuis de nombreuses années, avec peut-être comme épisode principal à ce développement le roman neuromancien de William Gibson qui est paru en 1984, je crois, et qui a lancé un peu la mode de ces interfaces dans les romans de science-fiction. On voit que les personnages de Métakine, donc dans mon roman, ils utilisent de tels dispositifs, ils posent sur leur tête des scanners miniatures que j'ai baptisés des calottes et dialoguent sans relais mécanique avec leurs ordinateurs, téléphones portables ou autres accessoires de leur quotidien. Tout le monde est interfacé en quelque sorte. Un autre exemple que j'utilise d'extrapolation linéaire dans mon roman concerne les ordinateurs quantiques. Vous avez probablement aussi lu ou entendu ou appris qu'il s'agit d'ordinateurs qui ne calculent plus en mode binaire comme nos actuels computers, mais qui utilisent des propriétés de la mécanique quantique pour effectuer leurs opérations, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette propriété quantique qui s'appelle la superposition d'états, dans le jargon des spécialistes du domaine. En d'autres termes, ces machines peuvent travailler à plusieurs niveaux de réalité physique en même temps, chacun de ces niveaux dédoublant les capacités de travail des autres. quelques-uns de ces registres de calcul seraient déjà fonctionnels, bien que la chose est débattue au niveau du scientifique. Ici, vous avez une image d'un ordinateur actuellement construit, sauf erreur, par IBM, et puis qui serait un premier ordinateur quantique fonctionnel. Il est encore très difficile d'isoler un processeur quantique, parce qu'il y a un problème, c'est que la moindre interférence avec un phénomène quantique provoque leur effondrement ou décohérence, et puis l'effet de superposition que vous espériez pour décupler vos calculs s'effondre et réduit à néant. Les chercheurs qui œuvrent à la réalisation de processeurs quantiques espèrent bientôt venir à bout de ces difficultés techniques et de décupler la puissance dans les années à venir. On a calculé que si on réussissait, par exemple, à faire fonctionner en parallèle 1 millier de ces unités de travail quantique, on arriverait à une puissance de calcul, ou plutôt à un nombre d'opérations simultanées, qui dépasserait le nombre total d'atomes contenus dans l'univers. C'est une simple question de démultiplication des possibilités de ces ordinateurs. On se rend compte que là, on a des perspectives absolument hallucinantes en matière d'informatique et de machines qui se profilent maintenant dans la réalité scientifique d'aujourd'hui. Dans Metakin, évidemment, je fais un pas de plus dans cette direction, et j'imagine que les machines sont déjà au point et équipent de nombreux appareils de la vie quotidienne. Une majorité des fonctions dévolues à l'informatique sont maintenant confiées à des ordinateurs quantiques, et puis tout travail, tout calcul électronique est confié à des machines qui sont capables de ces prouesses. Alors jusqu'ici, je vous le répète, mes prédictions n'ont rien fait d'autre que de prolonger les projets des scientifiques qui travaillent actuellement à la mise au point des circuits quantiques. Je reste dans mon anticipation, qu'il s'agisse de médicaments, qu'il s'agisse d'interfaces cerveau-machine ou d'ordinateurs, dans la prévision linéaire. Maintenant, j'utilise, pas de manière vraiment consciente et voulue, mais en analysant ma propre démarche d'écrivain, j'utilise dans mon roman un autre type de conjecture, que j'appellerai non plus linéaire, mais cette fois-ci combinatoire. Je provoque la rencontre de mes extrapolations linéaires et je les fais interagir. Apparaît alors un nouveau motif imaginaire qui dépasse la simple addition de ses composants. L'effet obtenu équivaut à une sorte de rupture des linéarités que, pompeusement, je pourrais appeler une sorte de saut de paradigme. Concrètement, en reprenant les exemples que j'ai tirés de Metakin tout à l'heure, je vous ai donc dit que les ordinateurs sont directement connectés au cerveau de leurs usagers. Mais justement, ces ordinateurs calculant désormais en mode quantique, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des usagers? C'est-à-dire, est-ce que le cerveau des usagers relié directement à ces machines va tout à coup aussi entrer en mode quantique? Le cerveau va devoir se faire un ensemble de lois physiques totalement étrangers à celui qui régit l'environnement que nous percevons avec nos sens, notre environnement quotidien? Par exemple, la mécanique quantique décrit des phénomènes où un corps physique se trouve à plusieurs endroits à la fois, où il est simultanément onde et particules, où il remonte le temps comme dans les diagrammes de Feynman, où il traverse l'espace plus vite que la lumière. C'est aussi le paradoxe du chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant parce qu'il est en état de superposition quantique. Alors, puisque le cerveau humain est maintenant branché sur des processeurs qui exploitent ses propriétés décoiffantes, que deviennent la pensée, les notions de temps et d'espace, la mémoire et la conscience elle-même finalement? Voici, vous en conviendrez, un saut spéculatif autrement plus radical que le simple prolongement d'une tendance du présent. Voici, offert à l'imagination, tout un nouveau champ à explorer. Voici un terrain rêvé pour des expériences de pensée inédites, un abîme de questions ouvertes et passionnantes. La conscience pourrait-elle s'affranchir du continuum espace-temps? Pourrait-elle appréhender plusieurs réalités à la fois? Embrasserait-elle une multitude de mondes possibles et de modes d'existence? On comprendra que c'est une fois franchi ce bond spéculatif que j'ai réellement senti décoller mon plaisir d'écrire Metakin. Mes personnages et moi étions arrivés devant des perspectives d'invention et d'aventure absolument inouïes. En tant que lecteur de science-fiction, c'est aussi devant de tels basculements de point de vue que j'ai ressenti les émotions les plus mémorables. En de telles occasions aussi que j'ai réalisé que la science-fiction avait quelque chose à dire de plus que d'autres modes d'expression littéraire ou artistique. Alors on voit que, partie de simples prévisions techniques, la science-fiction peut nous amener très loin. Mais encore faut-il savoir que faire de ces découvertes. Comment exploiter ces intuitions parfois vertigineuses. On peut bien sûr en rester à l'évasion, au jeu, à la combinaison gratuite des éléments. L'auteur de science-fiction se contente souvent de décrire les démêlés de ses personnages avec les anomalies, les monstres ou les paradoxes que lui a soufflé son imagination. Mais il peut aussi prendre davantage de recul, celui de la réflexion par exemple, devant ces figures extraordinaires, et s'en servir comme de nouvelles et inspirantes métaphores. Métaphores. Le mot sonne un peu ronflant après la quincaillerie de pilules, de transistors et d'électrochocs et d'électrodes que je viens d'étaler. Mais je n'en trouve pas d'autres pour éclairer mes efforts de romancier cherchant à donner du sens aux péripéties de ces personnages. Dans Metakin, 6 protagonistes s'expriment à tour de rôle. Ce sont des adversaires, soit des promoteurs du médicament Metakin. Il y a par exemple Régis, un écolier dissipé, Clotilde et Sophie, qui sont deux militantes qui essayent d'éviter l'emploi, l'abus de psychotropes dans les collèges. Il y a dans l'autre camp, Curtis, super manager, qui est directeur marketing chez Globantis Pharma. Et tous sont emblématiques, d'une certaine façon, des craintes ou des espérances que la société future, que j'ai mis en scène dans la société future du livre. En ce sens, Metakin n'est pas seulement un produit phare de l'industrie pharmaceutique, elle incarne ce fameux pharmacon grec qui est à la fois le poison et le remède chez les Grecs. Elle symbolise et véhicule les espoirs fous de guérison et de réussite. Elle fait envie autant que peur. Metakin est donc moins le procès de l'industrie pharmaceutique, même si celle-ci en prend pour son grade dans mon roman, que celui de nos croyances en matière de santé, de reconnaissance publique, de statut social, donc une métaphore. Si je reprends le concept d'ordinateur quantique qui calculerait dans plusieurs plans de réalité à la fois, si j'imagine qu'un cerveau humain se connecte à de telles machines, on lui permet de facto d'accéder à cette pluralité de modes d'existence. On ouvre à l'esprit la faculté de visiter des mondes pluriels et concomitants. C'est faire là, une fois de plus, acte de science-fiction. Mais pourquoi s'en défendre? Après tout, la théorie des mondes multiples ou multivers a le vent en poupe en physique théorique. Pas moins de 4 théories actuellement concurrentes en physique postulent très sérieusement l'existence d'une multiplicité d'univers comparable ou divergent d'une autre. Metakin s'envole dans la conjecture, bien sûr, j'en conviens. Il n'empêche que le roman ne rompt pas le fil à la patte qui le relie à la science, donc au réel. Jamais j'ai eu l'impression de trahir même dans les extrapolations les plus déjantées que m'ont permis ces combinaisons imaginaires que je vous décrivais tout à l'heure, jamais je n'ai eu l'impression de perdre ce contact avec la science et le plausible. Donc, par la magie des quantas et des calottes cérébrales, les héros de Metakin visitent des univers parallèles. C'est ici, intéressant aussi, que la philosophie vient très concrètement au secours de l'écrivain. Je m'explique. Leibniz, philosophe que vous connaissez, dans ses essais de Théodicée, se livre à une expérience de pensée qui n'a rien à envier aux créateurs de science-fiction les plus déjantés. Il imagine ce qu'il nomme la pyramide des mondes possibles. En haut du cône, il place le monde, son meilleur des mondes, hein, pour reprendre son expression, à savoir le nôtre, celui que Dieu a choisi et dans lequel nous, ses créatures, avons la chance de vivre. On sait ce que Voltaire a pensé de cette manière de voir, puisqu'il s'est abondamment moqué de Leibniz dans son roman Candide. Mais ce n'est pas le propos du jour. Ce que j'ai retenu chez Leibniz, c'est le concept de pyramide. J'ai retenu ce motif de la pyramide pour en faire un motif de fiction dans Metakin, parce qu'il avait cette idée de hiérarchie, qu'il y a dans les réalités possibles, dans les mondes possibles, comme les appelle Leibniz, un classement qualitatif. Leibniz défend l'idée que parmi les mondes parallèles qui gravitent autour de mes personnages, Leibniz défend l'idée qu'il existe des mondes plus ou moins réussis. Parmi tous ceux que sa métaphysique, ou maintenant, actuellement, ce que disent les physiciens, de très compétents scientifiques, donc il soutient que parmi tous ces mondes, il y en a des plus ou moins réussis, des plus ou moins accomplis. En langage d'informaticien, on pourrait appeler ça, on pourrait parler de monde plus ou moins dégradé. En mécanique quantique, une fois de plus, on pourrait parler de haut et de bas de la fonction d'onde. Bref, Leibniz m'a soufflé que parmi les mondes parallèles qui gravitent autour de mes personnages, il en serait de différentes qualités, les uns plus désirables, plus vivables, plus équilibrés que les autres. Si la conscience de mes héros surplombe la pyramide des possibles grâce à la puissance de calcul des ordinateurs quantiques, cette conscience plurielle pourrait-elle être de quelque secours pour élire un de ces univers, ou au contraire, pour éviter les pires d'entre eux ? Réponse dans le roman. Qu'on retienne seulement que pour mes circuits quantiques, pour moi, les circuits quantiques et les interfaces cerveau-machine sont davantage que d'amusants gadgets. J'espère que ces motifs soient aussi lus comme des métaphores. Autrement dit, comme un moyen imagé ou un moyen imaginé d'approcher les mystères et les limites de la conscience. L'usage que j'en fais est-il licite ou interdit ou abusif ? Ça, c'est le lecteur qui choisira. On aura compris à tout ça que la science-fiction procède par amplification, rupture et torsion de la réalité présente. Opération parfois gratuite, visant le seul dépaysement, mais qui produit aussi parfois sans ses profondeurs en ouvrant des portes métaphoriques singulières dans l'horizon de nos certitudes. Et finalement, c'est à l'écrivain de les entrebâiller, mais c'est finalement au lecteur de les pousser plus largement. Bienvenue dans mes taquines.
Merci François. Je tiens à dire que tous les dessins que vous avez vus sont de François Rouillet. Hein. Il est aussi illustrateur, mais pas seulement écrivain, pharmacien. Il n'est pas chanteur, non ?
Non.
C'est un homme orchestre. Moi je pense qu'on pourrait passer la parole à Anthony Vallat en rebondissant sur les mondes possibles, parce que je sais qu'Anthony, tu connais, tu réfléchis au problème des mondes possibles. Merci. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les mondes possibles?
Alors, j'avais prévu effectivement aussi un exposé sur les parallèles entre la philosophie et la science-fiction et les différences entre science-fiction et philosophie. Je voulais pas forcément parler tout de suite des mondes possibles. J'ai prévu un peu. J'ai plusieurs choix possibles. J'ai déjà fait une conférence effectivement dans le groupe vaudois il y a quelques années sur les mondes possibles et la science-fiction et la philosophie. Donc je voulais pas forcément tout de suite reprendre la même chose. Moi je m'intéressais par rapport à la notion de paradigme. C'est là où je voulais revenir sur cette notion. Peut-être en introduction. Donc moi j'ai écrit cet essai sur Asimov qui traite justement de l'utopie, et j'ai aussi une nouvelle que j'ai publiée dans Futur Insolite, l'anthologie, sur laquelle alors, j'ai une dette par rapport au groupe vaudois pour cette nouvelle. C'est que j'ai rédigé cette nouvelle il y a 8 ans à peu près, j'ai commencé à la rédiger il y a 8 ans, et je me suis basé sur un certain nombre de conférences qui avaient lieu au groupe vaudois à cette époque. J'ai écrit cette nouvelle pour essayer d'expliquer pourquoi la Suisse fonctionnait plus ou moins bien. J'essayais de trouver une hypothèse de sociologie-fiction, pour expliquer pourquoi la Suisse fonctionnait plus ou moins bien. Et je m'étais appuyé sur un certain nombre d'éléments de conférences qu'on avait eues à l'époque. Je me rappelle d'une conférence de M. Reynaud, je ne sais plus son prénom, Philippe Reynaud, qui était venu parler de la nation. Je me rappelle d'une conférence aussi sur Ramu, par rapport au pays, où j'ai récupéré pas mal de choses que j'ai glissées dans ma nouvelle. Et puis aussi de conférences sur les Austros, en fait, où j'avais aussi récupéré un certain nombre de notions que j'ai aussi glissées dans ma nouvelle. Donc là, j'ai effectivement une dette par rapport au groupe vaudois, de ces conférences d'il y a quelques années. Moi, je vais m'intéresser effectivement à une des notions de la science-fiction dont tu as parlé, qui est la notion de vertige cognitif. C'est qu'une des propriétés de la science-fiction, qui peut ressembler à des propriétés qu'il y a dans la philosophie aussi, c'est la notion de vertige cognitif. Donc l'idée, effectivement... L'idée qu'il y a une espèce de changement de paradigme qui s'opère dans un récit de science-fiction, et ça crée comme ça un vertige cognitif chez le lecteur. Alors pour expliquer cette notion, la notion de paradigme, vous la connaissez plus ou moins. Alors moi j'ai pris une définition chez Morin, Edgar Morin, à l'époque où j'ai fait mon mémoire à l'université sur Philippe K. Dick, sur la direction de Jean-Michel Adam. Voilà, donc j'ai fait un mémoire sur Dick à l'époque, où le paradigme, c'est un peu comme ça, une espèce de noyau central d'une vision du monde, hein, une espèce de système d'idées et de discours et de un système logique comme ça qui permet de reconstituer comme ça une espèce de logique dans une vision du monde. Un paradigme, ça sélectionne les logiques appropriées pour chaque objet, par exemple, et hiérarchise comme ça pour former effectivement une espèce de vision du monde unique. Par exemple, le paradigme de l'héliocentrisme, pour en juste un exemple, où tout à coup on a découvert que la Terre tournait autour du Soleil, a renversé tout un tas de représentations de l'homme, de sa place dans l'univers et de tas de choses comme ça. Là, on a eu typiquement un changement de paradigme quand on est passé du paradigme de la Terre au centre de l'univers au paradigme de la Terre qui tourne autour du Soleil, donc le héliocentrisme. Là, on a un bon exemple de changement de paradigme. Alors pour discuter de ça, moi je me suis appuyé pour parler de la science-fiction et de l'ensemble de paradigme sur une thèse qui est parue sur la science-fiction. Alors c'est la plus vieille thèse qui est parue sur la science-fiction en francophonie. Elle a été publiée à l'Université de Lausanne en 1915. Ce qui paraît très étonnant, c'est une thèse écrite par un monsieur Hubert Mattet en 1915. Thèse assez extraordinaire, en tout cas moi j'ai découverte grâce à Jean-François d'ailleurs qui a fait son mémoire à l'université quelques années avant moi, qui avait déjà repéré cette thèse dans les archives de la bibliothèque. Et Hubert Mattet effectivement a fourni cette thèse quand il avait dans les 20 ans. Ensuite il est parti faire prof dans un lycée de jeunes filles à Bâle et n'a plus rien écrit d'autre. Bon, mais en tout cas il a fait cette œuvre, il a écrit cette thèse où il a essayé de réfléchir sur les notions de... Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas science-fiction, ça s'appelait merveilleux scientifique. Il a essayé également de réfléchir sur le fantastique et sur le merveilleux en général. Il a essayé comme ça de réfléchir sur ces trois genres et d'essayer de poser des définitions pour montrer les différences entre ces trois genres. Et on va justement retomber un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à l'inéarité des paradigmes et au saut paradigmatique. Alors chez Hubert Mattet, lui, ce qu'il... Alors, parmi le point commun qu'il a trouvé entre le merveilleux, le fantastique et la science-fiction, c'est qu'il y a toujours ce qu'il appelle un élément merveilleux à la base du récit. C'est-à-dire un élément qui n'appartient pas au réel cartographié, si on veut, au réel expliqué. Voilà, il y a un élément comme ça, ça peut être un fantôme, un extraterrestre, un objet physique, enfin quelque chose, il se passe quelque chose qui n'est pas que la science, entre guillemets, de l'époque, ne peut rien en dire, n'a pas d'explication, n'a pas de description complète qui fait qu'on l'accepte dans la réalité connue. Voilà, il part de ça, de cet élément. Ensuite, il explique qu'effectivement, ces trois genres hein, différents, comme ça, qu'on a tendance parfois à mélanger, parfois pas, où les librairies peuvent les mettre ensemble, les disjoindre, comme ça, il y a ça. Et après, il y a cet élément qui est présent. Et pour que le lecteur ait ce qu'il appelle l'émotion du merveilleux, hein, le lecteur après a une émotion du merveilleux, une émotion particulière, c'est un peu dans le contrat de lecture, hein, si on veut, de ces trois genres-là, qu'il y ait cette émotion chez le lecteur. Alors cette émotion, pour lui, pour faire passer cette émotion, l'auteur a proposé ce qu'il appelle un transpositeur, pour aider le terme un peu barbare comme ça qu'il a appelé, pour aider le lecteur effectivement à s'approprier cet objet et à ressentir une émotion particulière par rapport à ça. Alors il distingue effectivement le transpositeur du merveilleux, du transpositeur du fantastique, du transpositeur de la science-fiction ou du merveilleux scientifique. Alors pour lui, justement, une des différences tient à ce que le transpositeur du milieu scientifique, c'est justement le problème du paradigme. C'est le problème que pour accepter cet élément du réel qui n'est pas dans le réel connu, il faut changer de paradigme pour pouvoir l'intégrer dans une construction mentale nouvelle. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il place la naissance de ces mouvements-là au XIXe siècle ? Là aussi, il a une théorie que j'ai trouvée intéressante, c'est que plus la science progresse, et plus, au fond, disparaissent les explications de type merveilleux, explications de type religieuse sur les objets comme ça qui peuvent être surnaturels ou autres. Avant, ce que dit Hubert Mattet, c'est qu'avant avant l'essor de la science et de la rationalité, les individus du Moyen-Âge et à l'heure avaient une pluralité d'explications pour chaque phénomène. C'est quand les phénomènes n'étaient pas inconnus, si on ne trouvait pas d'explication rationnelle, on pouvait toujours attribuer les phénomènes soit au diable, soit à des processus magiques, soit à des processus de toutes sortes de types de causalités. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de fantastique avant le 19e siècle, avec, en guillemets, que du merveilleux. C'est-à-dire qu'on cherchait des explications, il y avait une pluralité d'explications à disposition. À partir du moment où la rationalité augmente et la science poursuit, en guillemets, sa conquête, comme ça, hein, des phénomènes de la nature, ces explications ne tiennent plus, c'est-à-dire qu'elles deviennent refusées, ces explications magiques, ces explications basées sur la religion ou autre. D'ailleurs, la religion catholique a résisté, hein, à l'idée qu'on puisse tout expliquer par la science et par la rationalité. Il y a eu comme ça une espèce de bagarre comme ça pour ça. C'est un des paradoxes que relève d'ailleurs Hubert Mathès, c'est que plus la science progresse et plus au fond la frontière avec l'inconnu se durcit, se solidifie, et plus il y a un contraste entre l'inconnu et le connu. Puisqu'il y a comme ça effectivement des phénomènes qui sont de plus en plus développés, et du coup on se retrouve au bord d'une espèce d'abîme comme ça, où il y a d'un côté des phénomènes parfaitement inconnus et des phénomènes qui sont cartographiés et connus. Et c'est cette frontière-là qui pour lui a suscité notamment le fantastique, c'est-à-dire ce sentiment comme ça où dans le réel surgit à côté des objets comme le Horla, hein, si on prend une nouvelle emblématique de Maupassant, où on attaque un phénomène qui apparaît, et le personnage en face du phénomène cherche d'explication à ce phénomène, à cet élément comme ça qui sort du réel cartographié, comme ça qui arrive de l'inconnu. Or dans le Horla, on a un mélange comme ça, hein, où le personnage cherche à la fois des éléments fantastiques pour des éléments merveilleux pour expliquer, et à la fois propose quelques hypothèses scientifiques. Donc c'est un moment littéraire intéressant où on a un mélange de fantastique, de merveilleux scientifique, où certains textes d'ailleurs de l'époque, je pense, apparaissaient comme de la science-fiction à l'époque, sont lus maintenant comme du fantastique. Parce que maintenant, on ne les considère plus comme des éléments surnaturels. À l'époque où on a découvert, par exemple, les propriétés de l'électricité, au XIXe siècle, la question a pu se poser, c'était une forme de nouveau paradigme, comme ça. Est-ce que l'esprit a les mêmes propriétés que l'électricité ? On a quelques nouvelles comme ça, Théophile Gautier, où il réfléchit, où il y a des nouvelles par rapport à, justement, où il réfléchit sur l'esprit en tant qu'électricité, où il y a quelques manipulations, et où le personnage se retrouve dans l'esprit d'un repart en arrière de 1000 ans pour visiter l'ancienne Rome. Enfin, il y a toutes sortes comme ça de nouvelles fantastiques qui discutent ou réfléchissent sur les nouveaux paradigmes qui apparaissent. Comme ça. Donc il y a cette espèce de frontière qui se durcit. Donc il y a un contraste de plus en plus fort entre le réel expliqué et le réel inexpliqué. L'intérêt du merveilleux scientifique, c'est justement de prendre de réfléchir sur les paradigmes. Ce que le lecteur veut, c'est ça, c'est ce vertige cognitif. Et c'est tout à coup que des nouveaux paradigmes apparaissent et qui expliquent autrement le réel. Et c'est là où, au fond, il y a une vraie différence entre le fantastique et la science-fiction, où le fantastique va jouer sur un autre contrat de lecture, sur la peur, l'effroi, sur le monde qui se déchire et qui se recolle, sur des processus comme ça. Alors que ce n'est effectivement pas le cas dans le merveilleux scientifique. Donc c'est là où, effectivement, je trouvais que la théorie de Mathès était intéressante. Et ce qui va être intéressant pour le lecteur, c'est... j'ai un extrait dont on parle. C'est la finesse et la profondeur du raisonnement, en fait, que va mettre en place l'auteur pour faire passer au lecteur, effectivement, les changements de paradigme. Il y a comme ça... c'est là où va se montrer l'intérêt... littéraire et esthétique du roman de science-fiction ou du roman de merveilleux fantastique de l'époque, justement cette espèce de transformation faire un jeu comme ça sur les changements de paradigme. Voilà, donc on a déjà chez Maurice Renard, enfin il y a plein d'anciens romans comme ça, hein, du merveilleux scientifique des années 20-30 qui jouent déjà sur ces phénomènes-là. Voilà, alors maintenant je vais en venir peut-être à parler du vertige cognitif. Donc le vertige cognitif, au fond, c'est qu'on a un premier paradigme qui est connu par tous et accepté, et on s'achemine comme ça vers un changement de paradigme. On passe au paradigme, je ne sais pas, au paradigme numéro 2, comme ça. Et donc on a ce premier paradigme et on a quelques éléments du réel qui sont là, qui sont d'abord linéaires, comme on a expliqué, l'ordinateur quantique. On rajoute des éléments comme ça qui sont dans la continuité de notre monde et soudainement va se produire un changement de paradigme, un saut d'esprit du lecteur, tout à coup, sans qu'il s'en aperçoive, ou sans que ce soit amené, enfin, les auteurs de science-fiction ont toutes sortes de techniques comme ça pour provoquer ce glissement vers la découverte d'un nouveau paradigme, comme ça. Alors ça peut se faire pas à pas, comme ça, où on essaye de préparer le lecteur gentiment à une espèce de révélation, hein, où tout à coup on a une espèce de révélation qui apparaît. On a ça dans le film Matrix, hein, par exemple. On voit, tout à coup, le personnage prend la fameuse pilule et alors lui, c'est directement un choc. Hein, on a directement un choc cognitif. Tout à coup, il change de paradigme en quelques secondes. Et il a un petit moment après pour digérer ce changement de paradigme. Ou alors, ça peut se faire de façon beaucoup plus lente et progressive, comme dans ton roman, par exemple. Et tout à coup, peut s'effectuer aussi ce nouveau paradigme. Et c'est là où il peut y avoir une espèce de lien avec la philosophie. Au fond, quand on est en transition de paradigme, pour moi, c'est là que s'ouvre un espace. Il y a un espace qui s'ouvre où le lecteur ou l'individu qui est en face de ces événements, hein, comme ça, on est tous un peu dans cette position-là, dans notre société, où arrivent toutes sortes d'objets technologiques qui apparaissent, et au fond, se crée un espace, une ouverture, et où peut-être la science n'a pas encore le nouveau paradigme qui va changer les choses. Les philosophes n'ont pas forcément encore non plus proposé de nouveaux paradigmes, et c'est là où va se laisser la possibilité à la poésie, au récit, justement, peut-être à de nouveaux mythes qui peuvent apparaître, où là, il y a un espace qui s'ouvre, un espace, justement, de la transition entre les deux paradigmes, où là, on a besoin, peut-être, d'artistes, de cinéastes, d'un besoin d'image, un besoin de trouver de nouveaux langages, de nouvelles métaphores, trouver de nouvelles choses, pour, justement, provoquer cette transition jusqu'au nouveau paradigme. Et voilà, et moi, je pense que c'est là où est un peu l'essence de la science-fiction. C'est ça. C'est que là, elle profite de cette ouverture en deux paradigmes pour glisser ses textes, pour glisser ses œuvres et pour justement pouvoir faire œuvre comme ça d'anticipation, hein, si on veut, ou de préparation, d'affichage, voilà, de cette transition de paradigme. Et il y a aussi une notion de plaisir. Et cette notion de plaisir, effectivement, le lecteur a du plaisir à voir les paradigmes qu'il pensait être les plus cohérents et qui pensait rendre le mieux compte de la réalité. Il découvre qu'il y a peut-être d'autres paradigmes qui rendraient mieux compte de la réalité actuelle ou qui rendront mieux compte des possibles développements technologiques. Et c'est là où il y a effectivement le plaisir de la littérature, de la fiction, du cinéma, de science-fiction, dans cette transition de paradigme, dans ce moment où on est entre deux paradigmes et on a besoin de s'accrocher à quelque chose, et finalement, il peut y avoir ce plaisir-là. Il y a peut-être ce plaisir-là aussi en philosophie. C'est pour ça que je peux amener le lien avec la philosophie, c'est qu'il est possible aussi que nous, en tant que lecteurs de philosophie, ce qu'on apprécie, c'est découvrir peut-être de nouveaux paradigmes chez les philosophes. Certains philosophes qui ont pu anticiper et présenter des paradigmes qui seront vrais dans l'avenir, ou certains qui mettent noir sur blanc un paradigme que tout le monde sent un peu confusément, mais que eux réussissent à définir de façon précise, comme ça, qui peut-être se font le révélateur de quelque chose qu'au fond tout le monde pense, une espèce de conscience collective, et par la justesse de leur description, réussissent à tout fédérer un certain nombre, ou réorganiser un peu l'histoire de la pensée, ou l'état de la pensée à un moment donné. Hein, donc il y a toujours cette œuvre-là, dans la philosophie, à mon avis aussi, de présentation de nouveaux paradigmes. Une des différences, c'est qu'évidemment, le philosophe doit se montrer convaincant, doit argumenter de façon rationnelle, alors que l'auteur de science-fiction, lui, peut se permettre de montrer des images, de ne pas être forcément totalement cohérent dans le paradigme qu'il présente. Je sais que dans ma nouvelle, par exemple, moi, j'ai un personnage de sociologue dans ma nouvelle qui, effectivement, fabrique une théorie pour expliquer pourquoi la Suisse fonctionne bien au XXe siècle. Et moi, je ne connais pas cette théorie à mon personnage. Je ne peux pas, moi, écrire un traité de sociologie sur expliquer pourquoi la Suisse fonctionne bien, ça. Enfin, je veux dire, c'est des années d'études. Enfin, je crois qu'aucun sociologue n'y est arrivé, d'ailleurs, pour l'instant. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de théorie qui existe là-dessus. Mais mon intérêt, c'est de faire penser au lecteur qui lit une théorie qui fonctionne. Donc je vais mettre un certain nombre d'éléments et que ce soit le lecteur lui-même qui va faire, qui va combler les liens logiques entre les éléments que je vais mettre en place, ceux que j'ai pris justement des conférences d'il y a 8 ans, que je peux comme ça mettre et puis créer comme ça une espèce de paysage un peu impressionniste, comme ça, comme des tâches de concepts, enfin des concepts comme des... Comment expliquer ça, mais enfin, voilà, j'ai du mal à analyser mon propre travail, mais enfin, voilà, j'ai des lecteurs qui m'ont dit d'ailleurs, tiens, ta théorie elle est intéressante, t'expliques ceci, ça. Et moi, je suis étonné par ce qu'ils m'expliquent, parce que c'est pas forcément ce que moi j'ai pensé mettre comme théorie. Donc, ils ont effectivement, il y a un travail du lecteur qui reconstitue lui une espèce de. Alors, je présente effectivement probablement plusieurs paradigmes dans ma nouvelle, mais je me suis pas forcément relu, j'ai pas analysé comme ça forcément ce que j'écris, mais j'ai essayé de pratiquer ce jeu-là dans mon texte. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur le vertige cognitif comme plaisir de la science-fiction qui profite du moment justement de transition de paradigme et qui justement utilise les propriétés de l'art, des images, de certains flous entre guillemets logiques comme ça qui laissent au lecteur la possibilité d'investir lui-même dans des personnages, des subjectivités pour faire cette transition vers d'autres paradigmes. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport justement au lien entre philosophie et science-fiction. Après, je peux aussi parler aussi des liens entre, par rapport au monde possible. Mais peut-être qu'on pourra le faire après s'il y a des questions ou je ne sais pas. Enfin, là, je vais peut-être m'arrêter là. Puis peut-être on peut en reparler peut-être s'il y a des questions plus précises là-dessus. Voilà. Merci pour votre attention.
Alors effectivement, moi je pense qu'on peut ouvrir le débat et puis si vous avez des questions, profitez, posez-les à nos auteurs et j'y aille, parce que ça soulève quand même pas mal de questions, hein, les rapports entre science-fiction et philosophie. Il y a déjà pas mal de gens qui se sont penchés dessus, mais les pistes que tu donnes sont intéressantes. Je voulais juste dire un petit truc sur Hubert Matter qui me revient là, parce que quand il parle de l'émotion ressentie à la lecture d'une œuvre fantastique ou de merveilleux scientifique, il dit si l'émotion est trop forte, les gens vont avoir les cheveux qui deviennent blancs et puis, enfin bref, il exagère. C'est très drôle, je trouve ça très amusant la façon d'écrire de Matter. Donc voilà, on vous passe la parole. Monsieur,
deux autres questions. Merci beaucoup pour ces interventions vraiment très intéressantes. Et la première question que j'avais, c'est une question terminologique. Cette notion de vertige cognitif est avancée par Matter ou c'est une traduction que vous avez faite?
Alors, moi je pense qu'elle est effectivement avancée par Matter parce que c'est là où lui il situe. Le plaisir du lecteur, c'est vraiment dans le fait qu'il y a une nouvelle forme de raisonnement, une nouvelle logique comme ça qui s'impose, parce qu'il s'agit de rendre cohérent un discours sur la réalité par rapport à un nouvel élément qui est présenté. Et c'est là où effectivement, je pense que c'est assez explicite dans ces textes. Il n'y a pas le mot paradigme. Hein, c'est il parle à un moment donné, il dit, alors il fait un commentaire sur Maurice Renard. Je vous lis peut-être quatre lignes comme ça que j'ai retiré chez Matter. Comme le remarque M. Maurice Renard, tout roman merveilleux scientifique repose au fond sur un sophisme, mais un sophisme voilé. Et tout l'art du conteur tend à dissimuler le point critique où la chaîne est en fait interrompue. Et le degré d'illusion dépend en grande partie de l'habileté et de la virtuosité dialectique de l'auteur. Alors c'est le moment effectivement où il y a cette rupture. Je pense qu'il ne va pas assez loin, Matter. Il oublie de penser qu'effectivement l'auteur pouvait proposer une nouvelle forme de un nouveau paradigme comme ça. Je pense que là il pourrait effectivement aller plus loin. Alors je pense qu'effectivement c'est là qu'il voit ce plaisir particulier. Est-ce que j'ai d'autres phrases? Non, je n'ai pas tout de suite. Mais oui, pour moi, c'est il y a effectivement cette Voilà, je pense qu'effectivement, c'est ça qui vise. Dans le plaisir du lecteur, c'est pas... Dans le plaisir du fantastique, c'est l'effroi, la peur, l'angoisse, enfin, les sortes de... Dans le contrat de lecture, hein, comme ça, qui sont proposés. Dans le milieu scientifique, c'est vraiment l'idée, voilà, on découvre un nouveau paradigme. Comme quand ils ont découvert l'électricité, ça a ouvert des paradigmes nouveaux par rapport à l'esprit, où on s'est dit, mais est-ce que l'esprit fonctionne pas comme l'électricité ? Et du coup, l'effroi, et on a Frankenstein, on a les nouvelles de Gautier, on a tout un tas, tout à coup, de récits qui arrivent, et où l'idée que, voilà, l'esprit peut être manipulable comme électricité apparaît. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai tiré ça de Mathé à l'époque. Je tire aussi ça d'une idée, il y a eu un débat dans la science-fiction pendant longtemps, qui était l'idée qu'au XXe siècle, la science-fiction était le dernier refuge de la métaphysique. Ça a été un grand débat de milieu de science-fiction qui a été effectivement développé, puisque, soi-disant, la métaphysique a disparu au XIXe siècle, et au fond, les amateurs de métaphysique étaient obligés de se réfugier dans la science-fiction pour continuer de faire de la métaphysique, de proposer comme ça des paradigmes, de réfléchir sur d'autres choses. Donc c'est sur ces deux notions-là, en fait, que je m'appuie pour parler de ça. Alors peut-être, j'ai oublié de parler du texte que j'ai fait sur Asimov par rapport à Fondation, puisque j'ai écrit cet essai sur Fondation, comme ça, et l'utopie, où ce texte d'Asimov de Fondation s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires depuis sa parution. Il était lu par une masse de gens absolument incalculables sur la planète, et son succès ne se dément pas. Et moi, mon hypothèse, c'était que, au fond, son succès repose sur l'utopie, sur le fait qu'Asimov propose une utopie au début de son roman, et une utopie qui a l'air comme ça réalisable. Son paradigme de base, c'est l'idée que si on trouve une super sociologie parfaite, qui finit par décrire complètement le fonctionnement d'une société, on pourra, en manipulant les sociétés, arriver à une société utopique. Voilà, donc ça, c'est son paradigme de base. Et après, tout au long du roman, on s'aperçoit que volume après volume, il détruit ce paradigme-là pour en proposer d'autres. Voilà, où il change son paradigme sur l'utopie. Donc il propose successivement dans les trois premiers volumes, puis ensuite dans d'autres volumes, un changement continuel de paradigme, enfin, avec des ruptures par contre, hein, des révélations de l'auteur, des lecteurs qui sont là, enfin, avec des coups de théâtre qui tout à coup détruisent le paradigme pour proposer un nouveau. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce succès de ce roman reposait aussi sur, effectivement, cette notion de rupture de paradigme, de changement de paradigme. Et que si ce roman a fonctionné, c'est parce qu'il proposait au départ une utopie qui avait l'air accessible et qu'il a continué de réfléchir comme ça pendant 30, 40 ans. Tout à coup, il a fait une pause de 20 ans. Il a écrit un volume suivant parce qu'il estimait que son paradigme n'était pas complet. Il lui propose un nouveau paradigme. Donc il fait comme ça tout un jeu comme ça sur la notion de paradigme. Et c'est, à mon avis, une des raisons du succès de cette œuvre.
Voilà. Vous aviez une deuxième question ?
Oui, la deuxième question, c'était une question peut-être un peu plus large, mais est-ce que vous pouvez envisager, à votre avis, une pragmatique de ce plaisir ressenti par le changement paradigme ? Parce que si le roman de science-fiction met en scène ce changement paradigme, dans quelle mesure est-ce que cette mise en scène après pourrait se traduire dans des pratiques de lecture, des pratiques sociales qui suivraient, dans quelle mesure est-ce que ces pratiques pourraient être liées à cette transformation, cette transition paradigme ?
Je pense que la question est difficile parce que si on essaye de mettre au point une méthode pour faire survenir des paradigmes, on est déjà dans un paradigme. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment le mystère de la découverte de quelque chose. En écrivant mon roman, j'ai comme ça eu à plusieurs reprises des espèces de confirmation que ce que j'écrivais, rappelons-nous d'abord que en science-fiction, un peu le contrat implicite d'une œuvre de science-fiction, c'est de donner au lecteur un certain nombre d'explications qu'on peut poursuivre jusqu'au bout ou qu'on peut esquisser. Alors, lorsqu'on tout à coup, on nous vient une idée extraordinaire qui relève dans un premier temps de l'onirique ou de l'invention pure ou du hasard de combinatoire entre différents éléments d'imagination, et tout à coup, on invente quelque chose, eh bien, dans cette phase-là, on n'a pas d'explication. Les explications sont souvent données à posteriori pour inscrire, si on tient toujours à écrire de la science-fiction. Si on laisse l'extraordinaire survenir sans explication, eh bien, on change de genre. On est dans le fantastique, on est dans le merveilleux, etc. Donc, je pense qu'une méthode pour faire surgir ce genre de choses, j'y crois pas trop. Moi, je partirais peut-être du vécu, en disant, en vous donnant par un exemple du point à partir duquel les choses entre réalité et fiction, ça peut se combiner. Lorsque j'ai cherché un titre pour le roman, un matin, je ne me rappelle plus dans quelles circonstances, mais comme ça, simplement au réveil, je me suis dit, ah, je vais appeler ce roman Metakin. Et à l'époque, Metakin, je l'avais écrit avec un K. Metakin. Et je me suis aperçu, quelques semaines après, bien sûr, il y a l'inconscient, il y a tout ce qui se passe dans la tête, hein, qu'on n'explique pas toujours, mais quelques semaines après, je me suis aperçu que Metakin avec K était l'exact anagramme de kétamine. Or, la kétamine est une autre molécule, qui est une molécule hallucinogène, mais qui est aussi employée en anesthésiologie, et qui a démontré ces dernières années des propriétés tout à fait intéressantes. Par exemple, on a pu démontrer que cette molécule pouvait réverser des états dépressifs profonds. Pas tout type de dépression, mais certains types de dépression déclarés comme quasiment incurables ont pu se réverser grâce à quelques doses de métakine. Dans le domaine des soins palliatifs. Pardon ?
Des kétamines, pas de métakine.
La kétamine, voilà. À force, on ne sait plus la réalité. Et un autre exemple de l'emploi de la kétamine, c'était que dans le domaine des soins palliatifs, vous avez des gens qui, après avoir pris pendant de longues périodes des médicaments de type opiacé, malheureusement chez ces gens-là, même en augmentant les doses, même en changeant d'opiacé, on n'arrive plus à couvrir leur douleur. C'est comme s'il y avait une espèce de saturation. Et la kétamine administrée à quelques-uns de ces patients, des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus, a complètement réversé la chose et les gens sont redevenus sensibles aux opiacés et ont de nouveau été sensibles à l'effet du médicament. Donc la kétamine est une sorte de rebooster du cerveau pour certaines fonctions cérébrales. Alors l'amusant dans l'histoire pour reprendre ce côté quand l'imagination rejoint la réalité, en 2012 ou quelque chose comme ça, j'ai fait dire à un de mes personnages pendant que j'étais en train d'écrire le roman, il s'agit d'un des promoteurs de la métakine, cette fois-ci métakine, pas kétamine, je lui fais dire on a mené une expérience dans mon laboratoire des plus intéressantes, on a artificiellement rendu des souris stressées à tel point qu'elles ont complètement perdu le réflexe de fuite devant le danger et qu'elles se sont comportées de manière totalement aberrante. Et puis on leur a donné de la métakine et ces souris, miraculeusement, n'étaient plus stressées et ont retrouvé le bon réflexe de fuite devant le danger. Voilà, c'est ce que j'ai fait dire à mon personnage. Eh bien, croyez-moi ou pas, en 2015, il y a une étude américaine qui est sortie, qui raconte que, une étude américaine très sérieuse, parue, les références figurent sur mon site, si jamais vous n'y croyez pas, une étude très sérieuse sur la kétamine, qui commence par décrire le fait qu'ils ont stressé dans des environnements de laboratoire, ils ont stressé des souris, à tel point qu'ils ont perdu le réflexe devant le danger, et alors avec la kétamine, et miraculeusement, elles n'étaient plus stressées. Donc, vous voyez, l'imagination, des fois, rejoint le réel avec en science-fiction, c'est assez étonnant. Et ça s'est produit à plusieurs reprises pendant l'écriture du roman. J'en fais pas une affaire de parapsychologie ou de pouvoir d'anticipation. Enfin, je lui dis simplement qu'il y a dans l'imagination sautant d'une hypothèse à l'autre, d'un paradigme à l'autre, il y a une sorte de recréation du réel qui parfois coïncide d'une façon vraiment très curieuse avec le véritable réel. Lorsqu'on avance dans l'écriture d'un roman de science-fiction, eh bien, on aperçoit souvent cette espèce de va-et-vient entre le fait de concevoir quelque chose de très avancé du point de vue imagination, hein, une scène absolument qui relèverait sortie de son contexte d'un pur délire psychédélique, mais en fait qu'on peut ensuite réintégrer dans le récit en racontant que cette scène a été causée par tel ou tel effet physique ou psychologique, etc. Et on passe comme ça dans... Donc,
vous dire qu'il y a des méthodes pour... parce que moi, je parle du plaisir de l'écriture. J'espère que le lecteur aura aussi le même plaisir en découvrant ces sauts imaginaires que je pratique dans mon livre. Donc, je ne connais pas d'autres méthodes que finalement aller et venir entre le surgissement de l'inconscient d'idées... Et finalement, c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de processus créatifs. Et heureusement qu'il n'y a pas de méthode, parce qu'on aura sûrement quelqu'un qui trouverait une drogue pour provoquer ça après.
Peut-être pour compléter, ce problème se pose aussi pour ceux qui écrivent de la philosophie. Je pense que vous êtes plusieurs dans la salle à écrire de la philosophie. Comment faire partager le paradigme que vous avez envie de présenter à votre lecteur dans votre texte ? C'est-à-dire comment argumenter, comment le lecteur va percevoir le nouveau paradigme que vous proposez ? Enfin, j'imagine, vous êtes pour ceux qui écrivent de la philosophie, c'est comment ? À la fois, il faut écrire un texte qui est rationnel, qui est convaincant, qui s'appuie sur effectivement tout un tas de codes et de normes, qui fait que le texte est recevable en tant que texte philosophique et légitime, et en même temps, comment faire pour que le lecteur soit pas décroché de la lecture, qu'il arrive à percevoir ce que vous entendez par paradigme. Donc ce problème peut aussi se poser, effectivement, du point de vue de l'écrivain de philosophie, en fait, hein, qui doit pouvoir faire passer ses idées, et qui ne peut pas le faire juste avec de l'art. C'est-à-dire que c'est pas le code légitime de la philosophie de prendre juste, je me rappelle, la conférence sur Borges ou d'autres choses où il y a d'autres méthodes de faire passer des paradigmes philosophiques, mais l'écrivain de philosophie est confronté à ce même problème, au fond. Hein, c'est comment mon lecteur va accepter le nouveau paradigme que je lui propose et quel argument je vais manipuler. Alors, c'est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus difficile, au fond, je pense, que la fiction, où au fond, on suggère et c'est le lecteur qui va lui-même faire un bon, et on a besoin d'être, entre guillemets, moins bon que philosophe. Enfin, je sais pas, c'est peut-être.
On pourrait aussi dire que, en matière de science-fiction, une partie de la créativité consiste à donner l'explication a posteriori. C'est-à-dire que, ben, par exemple, lorsque j'ai soumis une première version du livre à des amis que j'avais choisi comme lecteur bêta, comme on dit dans le jargon, et qui se sont amusés à relire ces premières pages du livre, m'ont dit « Ah, mais écoute, là, ton personnage de Régis, pour un gamin, il parle beaucoup trop comme un adulte. Ça va pas du tout, il sait beaucoup trop de choses, il fait des réflexions trop avancées pour son âge, etc. » Dans un premier temps, j'ai pris cette critique pour ce qu'elle était, et je me suis dit je vais réécrire les dialogues, les parties de où ce personnage s'exprime, je vais les réécrire de façon plus simple pour qu'il ait plus l'air d'un gamin que d'un adulte qui n'est pas. Et après, je me suis dit non, ce serait beaucoup plus intéressant de laisser ce gamin parler comme un adulte et d'expliquer pourquoi il parle comme un adulte. Et là, il faut inventer quelque chose. Et c'est là que c'est intéressant, ces effets de défi, lorsque tout à coup on a des incohérences dans le récit, plutôt que de dire « Ah, on est coincé, il ne se passe rien, etc. », on dort un bon coup dessus, et le lendemain matin, comme par hasard, on a déclaré pourquoi il y a cette incohérence, et on y trouve une explication qui fait avancer le récit. Et ça, c'est très intéressant, du point de vue du créateur, en tout cas. J'espère que le plaisir sera aussi celui du lecteur.
Oui.
J'ai un petit problème avec ton emploi du mot paradigme. Il se trouve que j'ai écouté l'émission réplique sur Foucault cet après-midi et que ce mystère du paradigme est revenu assez fortement entre la lecture que faisait justement Philippe Reynaud et puis celle de Frédéric Gros, qui est l'éditeur de Foucault-Montréal. Et en fait, si on veut remonter à cette notion de paradigme, bon, une fois qu'on est parti de l'idée platonicienne, c'est quand même ça à la base. Hein. Donc c'est la substance cause des phénomènes. Et ensuite, eh bien, on trouve Thomas Kuhn, qu'on lisait il y a 40 ans, avec une explication non popérienne de la révolution astronomique, c'est-à-dire l'idée qu'aucune expérience, finalement, ne pouvait donner l'avantage à l'héliocentrisme. Que cette révolution scientifique avait été obtenue, au fond, de manière douce, c'est-à-dire sans qu'une expérience décisive puisse être faite, Thomas Kuhn avait pour but de démolir la théorie de la falsificabilité de Popper et de dire qu'au fond les paradigmes sont toujours très englobants et que quand on change de discours dans la communauté scientifique, on ne se souvient même pas qu'on tenait un discours différent un peu avant. Donc c'est au fond pourquoi nos collègues de sciences sont incapables de faire l'histoire des sciences, mais constitutivement incapables, hein. J'ai bien essayé d'essayer de parler avec un physicien de Newton ou de Galilée, c'est impossible. Et c'est impossible parce que c'est recouvert, c'est effacé. Et cet effet d'effacement du paradigme est très très fort dans les mots et les choses, bien sûr. La première fois que j'ai découvert que l'écriture avait un sens analogique, du coup je l'ai appliqué à toutes les lectures que je faisais, mais au fond personne ne sait, à moins d'avoir étudié le Moyen-Âge, ce que c'est que la lecture analogique. Et c'est très intéressant, c'est vraiment enfoui, on lit plus comme ça. Et alors Philippe Reynaud disait que c'était quand même dommage de faire de la logique de Port-Royal une œuvre plus importante que les méditations métaphysiques ou les pensées de Pascal. Mais c'est bien ce que la notion de paradigme amène. Elle relativise complètement les élaborations philosophiques au profit d'un discours moyen qui règne en fait sur toute l'époque, qui est en l'occurrence le discours de la présentation. Donc quand on parle d'inventer un paradigme, on ne fait peut-être pas justice au caractère englobant et sournois de cette notion, qui en fait est une notion qui nous porte, mais qui nous porte où elle veut. Et le propre de la fiction, si on doit admettre que la fiction permet d'échapper à un paradigme, il n'est pas dit qu'elle soit constitutive d'un autre paradigme. En fait, j'admets l'idée de paradigme pour le réel constitué, mais j'ai de la peine à l'admettre pour le produit de la fiction. Tu vois ce que je veux dire ? Il me semble que la fiction, là, serait justement à son ordre philosophique si elle s'arrachait au paradigme pour n'en pas constituer. Donc elle serait déparadigmatisante. Et elle ne serait pas à l'origine d'un autre paradigme, même si ça peut être évidemment un monde possible. Là, je suis tout à fait d'accord, parce que la notion de monde possible, elle est bien moins lourde et sournoise que la notion de paradigme.
Oui, je... oui, ce que tu dis est intéressant. Alors c'est vrai que dans le roman de François, il étudie effectivement les différents types de relations entre cerveau et conscience. Tu n'en as pas parlé, mais c'est intéressant de voir que tu réfléchis là-dessus et que tu présentes différentes versions. Après, est-ce que ça se réduit à des paradigmes ? Effectivement, c'est une bonne question. À la fin de Futur Insolite, il y a Marc Attala qui a fait une préface. Qui est donc postface sur effectivement oui lui aussi utilise cette notion de paradigme. Alors lui son hypothèse forte, c'est de dire que la science-fiction n'invente jamais un nouveau paradigme, effectivement, ouais. Qu'elle ne fait que de montrer le paradigme, des paradigmes inconscients qui sont pas trop conscients et de les révéler au grand jour. Alors effectivement, moi je sais pas. Je dois avouer que ma théorie sur le vertige cognitif est assez fraîche, puis que je la teste un peu ce soir. Donc je suis content que tu mettes des critiques par rapport à ça. Donc voilà, c'est à voir. Est-ce qu'il y a invention ou pas ? Je sais pas. Je dois avouer que c'est un truc qui est toujours.
Par contre, il me semble que la notion piagétienne de Schem serait assez applicable au sens où bon, on a appris à marcher, on a appris à pédaler sur une trottinette, à faire avancer un vélo, puis quand on fait avancer une voiture, ben voilà, il n'y a plus aucun mouvement qui ressemble. Néanmoins, le chef de la mobilité dans l'espace, c'est le même. Mais on ne voit plus qu'il n'y a aucun mouvement qui ressemble entre le fait de conduire sa voiture et de marcher. Donc ce qui est intéressant, puis ensuite de faire voler un avion, il n'y a rien qui ressemble. Mm-hmm. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est dans le, si j'ose dire, avec les chefs piagétiens, on a des micro-paradigmes qui peuvent changer en fait en gardant les mêmes fonctions. Et c'est Piaget en fait l'inventeur du déséquilibre cognitif. Il n'y a pas de déséquilibre cognitif chez Foucault. Il y a l'ordre du discours qui est monotone et neutre, comme il le dit dans sa leçon inaugurale. Mais l'idée de déséquilibre cognitif, l'idée que la connaissance est un rééquilibrage nécessaire, est un élément qui est beaucoup plus piagétien que salien.
Oui, moi je pense que c'est vraiment des équilibres. Je pense que la science-fiction a inventé le plaisir du déséquilibre cognitif. C'est...
Mais c'est un plaisir.
Effectivement.
Pour ça, les gens ne feraient pas du ski.
Hein. Peut-être juste ajouter quelque chose à propos de cette histoire de paradigme. C'est une notion que personnellement je saisis mal, je maîtrise mal, mais je dirais que la science-fiction, plus qu'elle propose une vision du monde finie, elle introduit une possibilité, elle laisse entrevoir ce que pourrait être un autre paradigme ou un autre monde ou un autre horizon. Et c'est ça qui est parfois intéressant, c'est pas tellement l'explication finale, c'est le fait d'ouvrir et d'ouvrir à chaque œuvre l'esprit sur de nouveaux horizons. Alors, les horizons sont jamais terminés, parce qu'un livre de science-fiction, par définition, n'est pas un traité de physique, et encore moins un traité de physique qui expliquerait tout. C'est juste une ouverture vers d'autres horizons. Et le fait j'aime bien cette idée que l'amateur de science-fiction, chaque fois qu'il ferme un livre, il ferme un monde et il en retrouve un autre, etc. Et à la longue, je pense qu'il y a cette espèce de souplesse et qui nous donne une certaine relativisme par rapport au mode de pensée figé. Parce qu'à chaque livre s'ouvre d'autres possibles. C'est ça qui est intéressant. Et d'autres paradigmes, d'autres finalités, d'autres idéologies, d'autres... Et chaque fois, c'est un paysage différent. Et je trouve que l'esprit à ce petit jeu-là peut s'amuser beaucoup, mais aussi s'ouvrir beaucoup. C'est ça qui est intéressant.
Et votre notion de possible prend, si j'ose dire possible, ce jeu, mais la notion de paradigme peut-être pas, parce qu'un paradigme n'a pas de parallélisme, il n'y en a pas d'autre. Et ce qui est intéressant dans les réflexions qui sont faites au XXe siècle sur cette notion de paradigme, c'est que ça efface les mondes parallèles, justement, et qu'il faut un énorme effort archéologique pour aller chercher sous la surface des paradigmes les discours disparus, les discours fossiles qui sont faits déposés dans les bibliothèques. Alors, c'est vrai que si on prend des univers romanesques qui sont posés dans la bibliothèque les uns à côté des autres, et quand on les ouvre, ils vivent, puis quand on les referme, ils ne vivent plus, et ils reprennent leur place dans la bibliothèque, alphabétique, je suppose, et à ce moment-là, ce sont des mondes possibles. Mais ce ne sont pas des paradigmes. Le paradigme, c'est celui du roman. Et on n'arrive plus à imaginer un monde sans roman. Borges a essayé, quand Averroès traduit la poétique d'Aristote, mais il n'a jamais été au théâtre. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'une comédie, une tragédie, et il ne peut pas imaginer que les gens jouaient sur une scène, parce que ça a disparu de son monde. Et alors, il finit par dire, dans le Coran, il y a des magnifiques comédies.
Monsieur ?
Oui, moi, je m'intéresse beaucoup au concept de paradigme depuis 40 ans, et je suis activiste, et je regarde les problèmes mondiaux. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec la société civile mondiale, et les agences audiovisuelles, et les multinationales, qui se pose le problème de l'avenir humain. Et il me semble, moi, très fortement, que nous vivons dans une période de basculement de paradigme dans tous les domaines, dans l'économie, dans l'architecture, dans la psychiatrie, dans la médecine, dans l'agriculture, etc. etc. dans le sens que le paradigme, dans le sens, disons, de Weltanschauung en allemand, ou de Cosmovision en espagnol, revue en anglais, c'est tout notre... moi, j'ai l'impression que tous les prémices fondamentales de notre civilisation occidentale sont en train de se dissoudre pour donner place à une vision beaucoup plus systémique et beaucoup plus humaniste et beaucoup plus... qui porte beaucoup plus d'espoir. Est-ce que ça résonne avec votre idée ou... Enfin, est-ce que vous... Puisque vous êtes des philosophes qui s'intéressent à ce genre de questions, est-ce que vous avez l'impression que nous vivons dans un... comme je le vois, dans une période de transition de paradigme ou pas?
Alors, moi, j'ai donné un cours sur le transhumanisme il y a 2 ans, à peu près, puis pour illustrer ce cours sur le transhumanisme, j'ai pris un roman de Silverberg qui datait de 67, de 1967, où dedans, je trouvais qu'il y avait déjà... il mettait déjà en place, effectivement, toutes les possibilités de transformation des corps, des choses comme ça, et pour faire comprendre aux élèves, effectivement, que le corps n'était pas fini, ou tout à coup, je sais pas, le personnage fait une scène d'amour, c'est un homme au début de la scène, puis se transforme en femme pendant la scène, par exemple. Alors les élèves, c'est des choses qui, tout à coup, m'ont dit, bon, bah, du coup, ils percevaient peut-être mieux, effectivement, la fin de certains, peut-être, effectivement, des basculements de paradigme sur les notions de genre ou autre, grâce à ce roman qui date de 67. Et au fond, je trouve intéressant que la science-fiction, en un certain sens, des vieux romans ont déjà pu annoncer, afficher comme ça, mettre en scène des choses qui, au fond, sont d'actualité. Enfin, nous serons peut-être d'actualité d'ici quelques années. Donc il y a effectivement comme ça un travail souterrain, dans, peut-être dans un inconscient collectif, je ne sais pas, un inconscient collectif, des choses comme ça, où la science-fiction a pu déjà réfléchir, où il y a des œuvres qui déjà réfléchissent sur des... sur effectivement ce basculement dont vous parlez.
Est-ce que vous ressentez que nous vivons dans une période de basculement en ce moment ? grand basculement comme copernicienne ou...
Ah oui, moi, en tant que lecteur science-fiction, de toute façon, j'ai toujours été attentif à ça, entre guillemets, depuis tout petit, quand j'en lis depuis longtemps. Je n'ai pas une souplesse. Effectivement, j'ai cette souplesse mentale. Quand je suis en philosophie université, moi, j'ai l'impression de faire de la c'est un peu le même registre cognitif que la science-fiction, au fond. Hein. Quand on lit beaucoup d'œuvres de philosophie, au fond, on s'habitue aussi à entrer dans plusieurs sortes de mondes possibles. On a, entre guillemets, la même souplesse mentale que les lecteurs de science-fiction. Enfin, c'est le même travail cognitif de... Donc, moi, j'ai... Ouais, alors voilà, après, je crois que le succès de la Maison d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, montre que la société suisse, en tout cas, il y a cette espèce de sentiment que ça arrive. Il y a de plus en plus de spectateurs, il y a de plus en plus de... On voit que l'esthétique science-fiction prend plus de place qu'avant. Peut-être que ça, effectivement, peut-être que ça rejoint ce que vous vouliez dire.
Oui, vous nous demandez presque de faire œuvre de prophète. Qu'il y ait des basculements de plus en plus fréquents et de plus en plus vastes, évidemment. Et je crois que justement la science-fiction est une littérature qui essaye de... Enfin, littérature ou un moyen d'expression, c'est pas seulement littéraire, mais un moyen d'expression en général, qui prépare à ce genre de basculement. Alors, bien sûr, il y a deux façons de faire. On peut imaginer que les basculements à venir vont être des catastrophes. Et à ce moment-là, on essaye de prévenir nos contemporains de ce qu'il ne faudrait surtout pas faire. C'est à l'extrême 1984 de Orwell. Et puis, il y en a d'autres qui, eux, restent plutôt optimistes, plutôt que de jouer les Cassandres, et qui, eux, vont essayer de voir des solutions et de trouver des solutions. Alors, je vais parler pour moi-même, en ce qui concerne le puisque je suis auteur. Alors, c'est vrai qu'en lisant mon livre, on m'a dit « mais c'est d'une noirceur épouvantable ». Mais en fait, j'ai eu l'impression d'écrire, quant à moi, un livre qui, au contraire, ouvre des espoirs et ouvre des horizons nouveaux. Donc, il y a quand même une nécessité, je dirais, qui tient à la notion même de roman et d'histoire qu'on veut essayer de rendre intéressante, c'est que si vous racontez des histoires absence absolument aucune péripétie, où les héros ne subissent pas des pressions et des malheurs à répétition, vous n'allez pas intéresser le lecteur. Donc pour des raisons de dramaturgie, il est important de rendre un peu les choses difficiles. Et lorsqu'on s'attaque à la description de toute une société, lorsqu'on exagère certains de ses travers, eh bien, il va de soi qu'on va avoir tendance à peindre le diable sur la muraille. On va faire vraiment voir les choses les plus atroces qu'on voudrait surtout pas voir se réaliser. Mais d'un autre côté, ce pessimisme là ou cette vision bêtement tragique pour rendre le récit passionnant appelle nécessairement aussi, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on met des personnages dans une certaine situation, eh bien après il faut beaucoup d'imagination aussi pour les en sortir. Et puis les situations que l'on décrit sont des situations graves et inextricables, et plus on va devoir faire œuvre d'imagination pour essayer de leur trouver des dérivatifs. Donc c'est aussi intéressant du point de vue de la construction du livre, mais c'est aussi intéressant comme démarche de l'esprit pour essayer d'imaginer à notre monde qui va sur la mauvaise pente selon beaucoup de prophètes, pourrait peut-être aussi trouver quelques solutions, quelques alternatives ou quelques autres façons de voir que celles qui sont en vigueur maintenant. Donc je dirais que l'auteur de science-fiction finalement n'a pas à être en soi prophète ou pessimiste ou optimiste. Il a à mettre en œuvre une imagination qui est capable de faire face à certaines situations qu'il élabore. Et cette faculté de l'imagination, finalement, c'est un peu la leçon finale de l'écriture de science-fiction, c'est que l'imagination, finalement, triomphe. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait des nouveaux mondes et des nouveaux espoirs.
J'aimerais essayer d'articuler une perplexité, mais en rebondissant sur Christophe et sur vous aussi, il y a l'invitation d'Anthony, mais ce qui me rend perplexe, c'est votre... Apparemment, vous avez l'air de tenir à une sorte d'innocence et dans ce que vous faites, Alors, je vous en veux pas, mais moi, je vois deux problèmes à ça. Le premier, c'est que c'est notamment en indexant cette innocence sur le réel, sur un lien au réel. Un problème qu'on a aujourd'hui quand on veut penser le monde d'aujourd'hui, c'est notamment que, en gros, le réel, on sait plus quoi en faire. Il nous emmerde. Et il nous emmerde sans arrêt. Vous pouvez l'appeler la nation, vous pouvez l'appeler le capitalisme, vous pouvez l'appeler toutes sortes de choses. On nous dit, oui, c'est comme ça, c'est vrai, tu comprends. Ah, il y a les technologies qui nous connectent, la société connectée, toutes les manières. Parce que oui, il y a des choses tout à fait réelles qui se passent, qui sont catastrophiques. Je pense que moi, je suis moins optimiste que vous. Mais au fond, après, quand on essaye d'inventer d'autres histoires, philosophiques par exemple, ou sociologiques, alors on nous dit, non, mais attends, t'hallucines. C'est de la science-fiction que vous disiez. Gattaca, c'est le pire exemple que vous pouvez prendre, à mon avis, parce qu'il est constamment cité comme « voilà, ça va arriver, on a déjà commencé ».
Oui, mais je l'ai cité aussi parce que j'ai des gens qui m'ont dit texto, non, jamais.
Oui, mais c'est n'importe quel article.
Vous en trouvez.
Aujourd'hui, c'est Gattaca partout, Gattaca, on n'en peut plus. Bon, et donc, d'un côté, on a ce réel auquel vous voulez rester fidèle. Moi, ça me rend perplexe. C'est une question. Hein. Et d'un autre côté, on a les philosophes, certains, je pense à Donna Haraway ou Isabelle Stengers, qui ont besoin de vous, en fait, les gars, pour nous aider justement à sortir de cette espèce de réel magmatique, comme ça, pesant, comme on dit chez nous, et de l'ordre du paradigme. C'est-à-dire que.
Le réel, c'est le paradigme.
Voilà. Bon, et puis, c'était quoi l'autre truc? Et puis, donc, ouais, c'était cette espèce d'innocence où...
Vous pouvez préciser ce que vous entendez par effet d'innocence, je
n'ai pas trop compris. Ouais, justement, je prends par un autre bout. Vous produisez, notamment, là, je pense qu'il y a une différence entre vous deux, entre Anthony et vous, des expériences de pensée ou des... Et qui, moi, je les étudie sous un autre angle, c'est-à-dire le discours transhumaniste, qui est... très très proche de ce que vous décriviez dans votre démarche, hein, l'extrapolation linéaire qui rencontre d'autres extrapolations, convergence, on appelle ça la convergence NBIC aujourd'hui dans le jargon scientifique, et donc il y a l'intelligence artificielle, il y a des nanotechnologies, il y a toutes sortes de choses qui vont faire changer de paradigme pour le coup dans le futur, et quand vous articulez ce discours-là dans l'espace médiatique en revendiquant le réel, que font les transhumanistes, au fond, ce militants qui interviennent dans le débat public pour dire « Attention les gars, il est en train de se passer quelque chose, il faut qu'on se prépare », en gros, c'est comme ça que moi je définis le transhumanisme, et ben là, alors ça fait péter les plans à tout le monde. Ça fait psychodrame, j'ai pas encore écouté réplique dimanche passé, mais je veux dire, il y a plein de gens qui écrivent plein de livres pour dire à quel point, là, mais qu'est-ce que c'est dangereux cette affaire. Et vous tenez un livre, enfin... Vous mobilisez la science et le réel de la même manière, en disant « Ah ben, je regarde des indices aujourd'hui et puis j'en tire d'autres, je regarde ce que ça peut faire. » Et apparemment, bah, vous le vivez très bien et on ne vous tombe pas dessus en vous disant « Enfin, vous ne pouvez pas dire des trucs pareils. » Et c'est ça, vous ne pouvez pas dire des trucs pareils. Enfin, c'est super dangereux de mettre des drogues, des interfaces sur une machine. Mais les transhumanistes, ils disent la même chose, tout en disant « Non, mais on réfléchit aux conséquences, comme vous. » Pas tellement le trait, mais faudrait discuter plus longuement. Et donc, comment ça se fait que là, ça se passe bien? C'est l'innocence. C'est-à-dire, apparemment, voilà, personne s'est levé en disant « Mais ça va pas ou quoi ?» Mais j'aurais amené un transhumaniste qui aurait fait la même chose en disant « Essayons d'imaginer quelles pourraient être les conséquences de... » Alors là, il y aurait déjà trois personnes qui se seraient levées en disant « Mais c'est pas possible, des trucs pareils, c'est super dangereux. »
Là, c'est ça la fiction. Espace.
Oui, mais justement, c'est l'innocence de la fiction, et ça, moi, j'ai
plus envie d'y croire. Au bout du tabou, votre définition de la fiction, c'est l'innocence.
Non, mais c'est trop facile, parce que du coup, il y aurait d'un côté les philosophes, je sais pas, les politiciens qui devraient scrutiner le réel,
mais la fiction... Vous pouvez prendre la définition d'innocence dans un autre terme. Les innocents sont aussi parfois les ignorants. moi, je... Bon, d'abord sur le transhumanisme. Hein, le transhumanisme a quand même pas mal puisé de notions qui viennent de la science-fiction. D'ailleurs, la notion de singularité, en d'autres termes, elle vient d'un auteur de science-fiction. Donc, il y a un tronc commun, mais je ne dis pas que l'un influence l'autre, etc. Mais il y a eu des influences réciproques indéniables. Maintenant, pour dégager la science-fiction de cette... La science-fiction n'a pas pour vocation de proposer une vision du monde qu'elle aimerait mettre en œuvre. L'auteur n'a pas nécessairement envie que les fictions qu'il met en route deviennent des réalités. Hein? Il a envie davantage de... il a envie davantage de voir qu'est-ce qui se passerait si. Voilà et là, je crois que on n'est plus. Je pense que justement, il manque une certaine réflexion chez beaucoup de gens concernant, je dirais, l'inertie du réel. Vous avez des technologies qui débarquent tous les jours dans notre environnement quotidien. Et ces technologies deviennent, au bout d'un moment, un acquis. Elles font partie du paysage. Plus personne ne réfléchit sur la manière dont elles sont arrivées, et la manière dont on s'en sert, la manière dont on est exploité par elles, et qu'on exploite. Il se fait une sorte de cohabitation avec les choses, parce que je crois que depuis toujours, on a été habitué à la vision d'un monde un peu immuable, dans lequel les choses sont là, et puis il faut faire avec. Or, justement, ce qui se passe à notre époque, c'est la frénésie de nouveautés qui arrivent, mais que beaucoup trop de gens prennent ça comme une sorte d'acquis, c'est-à-dire de choses qui arrivent par la force des choses, le progrès est ce qu'il est, il faut suivre, etc. Et puis, bon gré, mal gré, ou plutôt simplement en y réfléchissant nullement, on accepte. L'écrivain de science-fiction, je pense, prend un recul par rapport à cela et expérimente les choses en les poussant un peu plus loin, en les combinant, en trouvant différentes astuces imaginaire pour justement réfléchir sur ce réel oppressant et un réel poisseux. Et ce serait intéressant que vous lisiez les textes que Isabelle Stengers a écrits sur la science-fiction. Il y en a des intéressants et c'est une excellente connaisseuse de la science-fiction.
Et Isabelle Stengers et Donna Haraway, la question de l'innocence, pour vraiment être très précis, c'est qu'il n'y a pas de discours sur le monde, même sur un monde possible ou un monde parallèle, qui est innocent. Ça a produit des effets. Et qu'est-ce qu'on fait de ces effets?
Oui. Mais alors ça, c'est... Alors, l'autre question de l'innocence, moi je ne me sens pas spécialement innocent après avoir écrit un roman comme Metakin. Et je pense que j'ai pris quand même en écrivant un tel roman un certain nombre de positions, d'engagements, je refuse la science-fiction comme simple évasion du réel. La fiction gratuite, ça ne m'intéresse pas. Si elle n'a pas quelque chose à dire sur ce que je vis et sur le monde que j'habite, elle ne m'intéresse pas.
Voilà.
Donc, en ce sens, je ne me sens pas vraiment innocent et dégagé du réel.
Pour répondre à ta question, moi, je me rappelle que j'ai fait le cours d'anthropologie de la technique à l'époque université donné par Berthoud. Il nous avait... j'avais parlé de la science-fiction de façon un peu enthousiaste. Il m'avait montré un texte de Jacques Ellul qui expliquait qu'effectivement, la science-fiction n'était pas innocente du tout parce qu'elle préparait les esprits à la technologie, etc. Donc, il y avait déjà à l'époque, en tout cas chez Jacques Ellul, déjà l'idée que la science-fiction n'était pas innocente. Et à l'époque, ça m'énervait parce que je ne croyais pas. Enfin, je sais qu'il y a 20 ans, je disais, ah, mais non, mais... Bon, aujourd'hui, effectivement, ta remarque fait que... Et depuis un petit moment, je reviens sur cette idée. Je la croyais effectivement innocente à l'époque, quand j'étais étudiant. Je la croyais effectivement détachée, etc. Et c'est intéressant. Et puis, là, il y a tout des débats sur la théorie du genre, par exemple, en sociologie, même politique en France. Hein, c'est une grosse affaire, cette histoire-là. Et moi, c'est depuis tout petit que j'ai des bouquins de science-fiction où les gens changent de sexe sans arrêt. Et puis, et effectivement, il n'y a jamais eu la moindre... C'est étonnant. Effectivement, François n'est pas attaqué. Enfin, il y a une forme comme ça, effectivement, c'est très étonnant. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. C'est fou. J'y réfléchis.
C'est des perplexités. Hein.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais.
C'est normal que l'écrivain se sente mis en danger parce qu'il écrit. Mais en fait, il ne l'est pas du tout. Il fait partie d'une sphère culturelle dans laquelle tout est possible et tout est accepté avec reconnaissance. Daniel de Roulet, qui a commis quelques actes terroristes dans Island, dans ses livres, il se sent un dangereux terroriste parce qu'il a fait 10 livres sur le nucléaire, mais il ne l'est pas, il est juste un bon auteur. Et c'est la vanité de la littérature que de croire que... Enfin, c'est aussi la barbarie des sociétés qui s'attaquent aux écrivains, parce qu'en ils ne comprennent pas que la fiction est un jeu et que d'une certaine manière, elle reste un jeu, quelle que soit l'implication subjective de l'écrivain, qui peut être complètement accablante. J'ai dit que c'était absolument accablant. Et il y a d'autres écrivains pathétiques, il n'y a pas des peintres pathétiques, il n'y a pas Franck Bonacom, il y a aussi des musiciens pathétiques, il y a quelque chose de pathétique de l'art, mais il ne reste pas moins que c'est une bulle, et que c'est un jeu, et que dans un concentre de concentration, on peut jouer Beethoven. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et il y a là un élément fondamental qui est justement la place du réel dans l'art.
Dans quelle mesure est-ce que du coup il ne faudrait pas interroger l'espace dans lequel l'auteur prend la parole, si elle existe sur un jeu de télévision par exemple, est-ce qu'on va baser pour de la fiction, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est autre chose. Je pense au théorie de Jean-Marie Schaeffer par exemple, qui dit que le rôle fondamental de l'auteur, l'éthique de l'auteur passe par la circonscription claire de cet espace de parole. Donc quand Welbeck vient chez Ruquier par exemple pour dire oui, moi, soumission, ce roman de l'autofiction, si nous n'avons pas lu après le roman qu'on a écrit pire, il ne peut pas penser que cette phrase ne va pas être considérée comme tout ce nom prophétique ou ce nom, disons, à l'enseignement, en tout cas, qui m'applique en tant qu'individu. Donc,
c'est l'artiste qui parle.
Et quand,
c'est que l'artiste.
Dans quelle mesure, du coup, est-ce qu'on pourrait différencier les deux ? C'est que c'est une question qui m'interroge aussi, je partage la perplexité de
l'artiste, il pense ce qu'il veut, mais il n'empêche qu'il y a une œuvre, un film, un livre, etc., et que ce livre, qu'il soit un jeu ou pas, il va provoquer chez celui qui l'apprécie une sorte d'état de suspension d'incrédulité dans lequel va se mettre le lecteur, et puis qui va faire que pendant un certain temps, le monde autour de lui va plus avoir la même existence, et qui va lui donner l'impression, qui va peut-être le faire retomber dans sa réalité suite à cette expérience, à une distance qu'il ne s'était pas préparé à franchir. Et peut-être que le livre l'a conduit ailleurs que ce qu'il était au départ. Je pense qu'il y a le pouvoir de l'art et de la fiction, c'est de déplacer le spectateur ou le lecteur de sa position d'origine. Et ça, c'est déjà agir sur le réel, c'est pas un effet de bulle, c'est réellement un effet sur la position subjective de chacun dans le monde.
Vous avez infiniment raison, c'est le mythe que Blanchot avait développé sur le champ des sirènes. Le but de l'art, c'est de couler le navire. Mais le navire ne coule pas parce que les rameurs ont des délétations dans les oreilles et que le navire passe son chemin. Et il y a juste Ulysse qui est sensible à l'art. Mais les sirènes en meurent parce qu'elles n'ont pas pu tuer le navire. Mais là, c'est le mythe des sirènes et c'est un mythe très profond que Blanchot avait mis en œuvre dans ses récits critiques, dans l'entretien infini en particulier. Et il dit les sirènes sont mortes d'avoir pas tué le navire.
Oui, mais on se tue aussi après avoir lu Le Jeune Werther.
Oui, c'est des effets. Les artistes adorent, ben ça c'est l'effet de sirène garanti. Mais Goethe lui-même était très critique par rapport à cet effet. Il disait que c'était des imbéciles et que c'était rien pour son livre.
Mais je crois que là, on entre dans un autre débat sur le rôle du livre et de l'écrit et de l'art en général pour faire évoluer les sociétés. Mais on peut y croire ou pas. Du point de vue d'un auteur, je pense que c'est transmettre aussi une sorte de témoignage sur son expérience créatrice, sur son l'imaginaire que nous avons, nous, doit-il rester que quoi ? ou doit-il s'exprimer ? C'est là la question, finalement. Quand on a une pression intérieure pour raconter des histoires qu'on pense intéressantes, faut-il leur résister pour les garder dans son tiroir ou faut-il les livrer aux autres ?
Surtout pas, il faut les écrire.
Ah, voilà.
Mais il ne faut pas succomber à l'illusion que l'art pourrait changer quelque chose. Parce que, comme dit assez justement Gabriel, voilà, il reste rêve. Et on le rencontre à un moment donné. Et c'est vraiment la différence de la fiction et de la réalité. Mais j'ai bien aimé vos remarques introductrices sur l'ontologie du lecteur, celui qui dit que ça va arriver, puis celui qui dit que ça ne va pas arriver. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez pertinent sur le point de vue de la lecture, et c'est vrai de tous les romans, d'une certaine manière. Mais bon, dans Candide, on arrive à Candide et Cacambo arrivent à l'Eldorado, et ils sont sur un sol pavé d'or, ils mettent des pierres dans leur poche. Et on leur dit, c'est pas la peine, c'est des pierres, c'est juste des pierres, vous pouvez rien payer avec ça, on en a trop. Et en fait, ça n'a jamais poussé quiconque à mettre, à avoir l'idée qu'on pouvait payer avec des cailloux.
Non, moi je pense que ce que introduit Gabriel, c'est justement une espèce de flottement du réel. On part du réel comme si on savait de quoi parler, grosso modo. Donc ta séparation entre fiction et réel, à la limite, c'est ça qu'on questionne. Alors maintenant que. Voilà, non ?
Oui.
Et donc voilà, donc c'est joli, c'est une forme de tirade d'ailleurs, mais. Mais au fond, l'idée de coup du navire, tu vois, déjà, c'est des blancs, ça.
Oui.
Déjà tu imagines toutes sortes d'hypothèses qui seraient à valider encore.
C'est une prétention assez naturelle de la nature, qu'elle s'est exprimée assez tôt, puisque c'était quand même de l'Odyssée que se trouve cette scène, qui a ensuite eu des retentissements considérables dans la réflexion. Donc c'est arrivé assez vite, c'est presque la naissance de l'écriture ou la naissance de la fonction littéraire dans la société s'associe à l'idée des sirènes et à l'idée qu'un jour la poésie pourrait changer la vie. Mais en fait non, la technique est donnée, il suffit de boucher les oreilles des rameurs et on passe.
Je suis pas sûr que la fonction de l'art soit nécessairement faire couler de la vie.
Non, mais moi je suis pas d'accord non plus. Je pense que l'art, ça change tout. Jimi Hendrix a changé toute une génération de l'esprit, ou Bob Dylan récemment, ou Blake en Angleterre, ou les poètes romantiques. Enfin, au Moyen-Âge, l'invention de la perspective a changé la cosmovision. Et ça, c'est juste dans le domaine de l'art. Il y a aussi la musique. Comme disait. Thomas Mann, l'art est à la société, c'est que le rêve est à l'individu. Et si on est lumière, mieux que faire un podium, on pense que le rêve, ça inspire la personne. Et donc, l'art, ça inspire la société, je pense. Et ça fait partie de l'arrivée de nouvelles formes d'expression artistique à un certain moment de la société, que ce soit en musique ou en peinture, par exemple. Ça exprime quelque chose de nouveau dans la manière de que les êtres humains se voient eux-mêmes, se voient la nature du monde et la nature de leur essence. Donc ça fait partie du basculement de ce paradigme, bien, tout aussi bien que la science, je pense. Mais enfin, tout ça, c'est des mots. Hein.
Oui.
Est-ce que quelqu'un a encore une question ?
Non, on pourrait discuter pendant très longtemps.
Oui, je sais. Non, mais c'est intéressant les dialogues. Oui, je vais passer la parole à Florence alors.
Pour clôturer la soirée et puis en même temps la saison, un immense merci aux trois intervenants d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressés, je crois que vous avez amené certains des livres. Il y a des gens qui sont intéressés. En dessin, ça prend très longtemps, mais c'est magnifique. On porte trois bières, mais
c'est peut-être plus rapide.
Et puis merci, on espère vous recroiser vos questionnements, parce que je trouve que enrichir la philosophie par des œuvres de fiction justement de ce type-là, ça nous donne matière à penser justement et à sortir un peu de nos lectures habituelles. Merci infiniment.
Merci
beaucoup.